Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Papy Charlie.
Comment aider une jeune fille à forger sa personnalité? Les sujets vous intéressent, n'attendez pas les dernières minutes. Appelez, commencez déjà à nous appeler ou nous, au 081-890-6394. Vous pouvez aussi nous écrire à service@radiocapi.net. Se bâtir, vous savez, bâtir une forte personnalité n'est pas toujours un exercice facile pour les jeunes filles. Elles sont nombreuses à se laisser influencer par des amis qui sont esclaves de la mode et de la vie facile. Conséquence, elles n'ont plus aucun idéal et sont prêtes à faire comme les autres. Comment aider une jeune femme à se forger une personnalité en dépit des difficultés de la vie? Isidore Bamanaï est en ligne depuis la ville d'Mbujima au Kasaï oriental. Bonjour, monsieur Isidore.
Bonjour Daniel, bonjour aux auditeurs de la radio Capi.
Voilà, vous êtes éducateur à la vie. Voilà, on parle aujourd'hui des jeunes filles qui sont accrochées à la mode et à la vie facile parce que les papas ne travaillent pas. Il n'a plus d'argent. Ben, la jeune fille court derrière les hommes mariés, certains hommes qui travaillent pour avoir de l'argent.
Oui, ça arrive régulièrement dans notre société, malheureusement.
Oui.
Alors que chaque jour nous répétons comme des refrains des chansons religieuses à l'église que éduquer une fille c'est éduquer toute une nation, je pense que nous avons tout intérêt à aider nos jeunes filles à avoir une personnalité qui puisse leur permettre de vivre correctement pendant qu'ils sont encore jeunes et pour préparer leur avenir. Parce que nous parlons de personnalité, laissez-moi d'abord dire aux auditeurs que la personnalité, ce sont des traits caractéristiques qui différencient une personne d'une autre.
Oui.
Et que la personnalité a trois dimensions. Il y a une dimension physique, il y a une dimension intellectuelle et il y a une dimension morale. La dimension physique est liée à la taille, au teint, à l'apparence extérieure qu'on affiche, aux habits que l'on porte. La dimension intellectuelle est liée à l'ensemble de connaissances que l'on a acquises dans la vie, mais aussi à sa façon de concevoir la vie, à sa façon de réfléchir, au raisonnement qu'on apporte devant l'une ou l'autre situation. Et la dimension morale est liée au comportement que nous avons devant différentes situations. Et alors, parents, éducateurs, écoles et pasteurs, nous devons tous conjuguer des efforts pour pouvoir former la personnalité de la jeune fille pour qu'elle ne soit pas victime de tout ce qui se passe autour d'elle et qu'elle puisse faire comme mademoiselle tout le monde.
Oui.
Dans notre pays, malheureusement, nous avons constaté que quand parfois on a posé un acte, et que vous posez la question à celui qui a posé l'acte, ou à celle, parce que nous parlons aujourd'hui de la fille, à celle qui a posé un acte, pourquoi vous avez posé cet acte? Je crois que les raisonnements n'arrivent pas. Parfois on dit, bon, je ne sais pas pourquoi ça m'est arrivé. Parfois on pointe du doigt les autres personnes, c'est elle qui m'a poussé. On renie sa propre responsabilité. Alors je pense qu'en ce moment-là, on n'a pas une personnalité qui puisse se justifier et qui puisse se former. Donc parents, éducateurs, enseignants, nous avons tout intérêt à aider nos filles à se former une personnalité assez forte.
Oui. Alors, donc, Mamanaï, certains disent que les jeunes filles souvent sont très naïves, elles croient facilement aux mensonges. Est-ce que cela est peut-être qualifié, est-ce que cela peut être le signe d'une personnalité faible?
Oui, ça c'est exact. Une personnalité faible, c'est une personnalité qu'on influence par n'importe quel mouvement, par n'importe quelle conception, par n'importe quelle vision de la vie. C'est une personnalité faible. Une personnalité forte, au contraire, c'est pourquoi elle pose tel acte. Elle sait justifier, elle sait apporter une argumentation solide qui puisse permettre aux autres de dire « Ah, elle a posé tel acte, elle a raison quelque part, ou elle a eu tort quelque part. » Si on se laisse influencer par ce qui se vit dans les milieux, on n'a pas une personnalité forte. En ce moment-là, peut-être la vie est vouée à un échec et plus tard, on va risquer, on va commencer à se dire pourquoi c'est arrivé à moi et non pas à d'autres personnes, pourquoi celles-là ont réussi et moi j'ai échoué. Donc nos filles ont tout intérêt à se former une personnalité, à ne pas croire facilement aux mensonges que les garçons leur racontent, surtout sur le plan affectif. Les garçons racontent beaucoup de mensonges aux filles. Moi je vous aime, comme elles savent trouver des mots pour toucher au cœur de la fille,
oui.
Comme ils savent aussi que la fille, c'est un peu plus le sentiment qui l'emporte sur le raisonnement.
Mmh.
Si on touche au corps de sensible de son cœur, la fille va finir par céder. Donc la fille ne doit pas croire aux mensonges, la fille doit regarder sa vie en face, la fille doit pouvoir être en mesure de réfléchir avant de poser tel ou tel autre acte pour vraiment poser un acte de manière responsable.
Mais alors Isidore Obamanaï, comment une jeune fille peut arriver à forger une forte responsabilité? Est-ce d'abord la responsabilité des parents?
Oui, je crois que les parents ont un rôle déterminant dans cette formation de la personnalité de la fille au niveau de la maison. Il faut que les parents fassent attention à la fille. Il faut que les parents considèrent la fille comme une personne humaine qui a la même valeur et la même dignité que les garçons. Il ne faut pas que l'on continue à raconter, que l'on continue à répéter plusieurs fois à la fille que les filles ne savent pas raisonner. Les filles, bon, elles doivent seulement suivre ce que les hommes disent. En ce moment-là, bon, la fille grandit avec cette idée-là et puis elle se dit, bon, c'est normal, c'est comme ça dans notre société. Je crois que les parents ont tout intérêt à éveiller l'intelligence de cette fille depuis les plus bas âges, à pouvoir répondre à ses questions quand elle veut comprendre des choses autour d'elle, à pouvoir lui parler et lui expliquer les choses de la vie qui lui arrivent, pour lui donner suffisamment des idées et pour lui donner suffisamment des arguments pour pouvoir poser un acte dans la vie. Je crois que c'est très important chez les parents, depuis le bas âge, surtout quand la fille commence à reconnaître les choses autour d'elle, quand elle commence à parler, quand elle commence à poser des questions, mais aussi plus tard à l'âge de la puberté, quand les changements interviennent dans son corps, qu'elle commence à se former des petits projets pour sa vie, il faudrait que les parents aident la fille à découvrir quelles sont ses potentialités et qu'est-ce qui correspond à sa personnalité et qu'est-ce qui peut l'aider à réussir sa vie plus tard. Cette responsabilité-là, il n'y a personne d'autre qui peut la prendre. Il n'y a que les parents qui doivent commencer et les autres, les enseignants, l'église, les amis, viennent y ajouter quelque chose.
Mais prenons le cas d'une jeune fille qui va par exemple à l'université, elle voit toutes ses copines bien habillées, des très beaux habits, elles sont chics tous les jours, ben, elle, ses parents n'ont pas assez d'argent pour la permettre aussi d'être comme les autres, ben, elle est tentée de suivre les autres dans ce qu'elles font, peut-être sortir avec un homme à gauche à droite pour avoir l'argent de s'acheter également des beaux vêtements.
Oui, cela arrive malheureusement, cela arrive régulièrement, Daniel. C'est parce que les parents ne font pas attention à beaucoup de choses. Quand vous parlez des habits à la mode, vous êtes déjà allé très loin. Il y a des parents qui oublient que leurs filles doivent avoir des sous-vêtements en nombre suffisant pour pouvoir les changer chaque jour. Il y a des parents qui oublient que leurs filles doivent avoir des couches pour arriver à l'âge de l'adolescence et à la menstruation, qu'elles puissent s'habiller en conséquence. Il y a des parents qui oublient que leurs filles doivent avoir un savon de toilette et que leurs filles doivent avoir une lotion pour appliquer sur le corps. C'est déjà des choses assez très simples auxquelles les parents devraient faire attention. Oui, c'est vrai que quand la fille trouve que les autres filles sont très bien habillées, elle est tentée. Et c'est naturel que l'on soit tenté. C'est naturel qu'on envie l'une ou l'autre personne. Mais ce n'est pas normal. Je mets la nuance entre le naturel et le normal. Parce que le naturel, c'est ce qui nous arrive à nous, sans que nous puissions réfléchir, sans que nous puissions nous dire, tiens, je dois agir de telle manière ou de telle autre manière. Le normal, c'est ce quand nous disons, mais qu'est-ce que moi je dois faire devant une situation pareille? Mes parents n'ont pas de moyens. Bien. Je prends une position intérieure, je me dis, je ne dois pas laisser ma personne trimballer entre les bras de 3, 4, 5 garçons pour avoir de l'argent pour acheter un body, pour acheter un jeans, pour acheter des perpètes, pour acheter une chaîne mince à mettre au cou. Je crois que sa vie n'écoute pas ce qu'on veut avoir comme apparure.
Oui.
Sa vie est noble, sa vie est très, très sacrée. C'est une vie qu'on doit respecter. Et quand une fille commence à courir avec les garçons, elle oublie qu'elle prend chez ces garçons-là ce qu'ils ont comme mentalité. Si c'est un menteur, la fille va commencer à mentir aussi. Si c'est un voleur, la même chose. Si c'est quelqu'un qui n'est pas habitué à raisonner, parce qu'on a eu des rapports sexuels avec lui, ce qui est dans sa personnalité se transfère chez l'autre personne. Je crois qu'on ne voit pas tellement cette dimension. On se laisse aller.
Oui.
On peut avoir un $20. C'est vrai, on peut acheter une ligne, ce qu'on souhaitait avoir. Mais par après, est-ce qu'on pense aux conséquences qui peuvent arriver? Parce que les filles doivent se dire que le garçon qui l'a trompé, que le garçon qui a eu des rapports sexuels avec elle, il sera le premier à raconter à la communauté, vous savez, cette fille-là, ah, moi j'ai réussi. Et les autres garçons commencent à vous prendre en déconsidération. Et que vous n'êtes pas dit. Et que même quand ce même garçon veut chercher une fille à prendre en mariage,
oui,
elle n'est pas celle-là. Elle va dire, celle-ci, comme elle s'est donnée à moi, elle peut se donner à d'autres personnes aussi. Même plus tard dans le mariage, ça sera une vie un peu difficile, ça sera une vie de soupçon, parce que chaque fois que la fille va lui présenter un garçon, il risque de se dire, est-ce que ce n'est pas un de ses copains, comme il avait eu l'habitude d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Je crois que nos filles ont tout intérêt à pouvoir réfléchir, à pouvoir se fixer un idéal noble dans sa vie. En ce moment-là, le reste, les bijoux, les souliers, les pantalons, etc., on peut se dire, bon, si je n'en ai pas aujourd'hui, je peux en avoir demain. Je crois qu'une personne forte, elle est aussi équilibrée, parce qu'elle ne cède pas aux envies qui lui arrivent tout le temps, et elle peut se construire un avenir meilleur.
Découvrez les après-midi de Radio Okapi de lundi à vendredi à partir de 13h. Des recettes, des reportages sur la vie quotidienne, des paroles d'enfants, des rubriques femmes et des balades zigzag. Et enfin, un brin de culture, c'est dans Découverte. Un rendez-vous Radio Okapi pour des après-midi promeneurs. Découverte, le lundi à vendredi, à partir de 13h, heure de Kinshasa.
Voilà, Hermène Katoutou nous appelle depuis la province du Bandundu. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre question?
Alors, je voudrais poser une question à notre invité concernant la valeur qu'a une fille et la virginité. Alors, quels sont les conseils socles pour qu'une fille, dès qu'il accorda les toits de ses parents, qu'elle puisse conserver cet état de virginité pour qu'elle soit même utile dans le mariage?
Merci, Isidore Bomanaï.
Oui, merci pour la question de notre ami Katoutou qui nous appelle depuis Bandundu.
Oui.
Conserver sa virginité, c'est une grande valeur parce que on doit respecter son propre corps parce que son corps c'est soi-même. On doit se dire, je ne peux pas donner mon corps à n'importe qui et pour n'importe quoi. Je crois que la première des choses, si les parents aident la fille dans ce sens-là, c'est la fille qui devra se disposer à intérioriser les principes qui lui sont transmis par les parents. La deuxième des choses, c'est que la fille peut se dire, je suis capable de surmonter les pulsions sexuelles quand elles montent, mais aussi pour subvenir aux besoins matériels, parce qu'on a parlé de besoins matériels tout à l'heure, pour subvenir aux besoins matériels, une fille peut, en allant à l'école, si elle va à l'école, même en restant à la maison, mener de petites activités qui peuvent lui procurer de l'argent, de telle manière qu'elle soit même partiellement à l'abri de besoins matériels, même partiellement. Donc je pense que la fille doit se dire, si on a eu autant d'hommes dans sa vie, c'est vrai que dans son ordinateur, dans son cerveau, les clichés qu'on a eu avec ces hommes-là vont rester. Et puis, bon, on a quelle valeur? Si on prend son corps, l'intimité de son corps, on donne à n'importe qui. Je pense que si on raisonne de cette manière-là, petit à petit, on peut surmonter les sollicitations sexuelles parce qu'elles sont nombreuses sur la route et qui viennent de toutes parts, qui viennent des gens qui roulent dans les Mercedes, qui viennent des garçons qui sont chics, qui viennent des garçons qui ont un peu de moyens de la part de leurs parents. Les sollicitations viennent de toutes parts, mais la fille est capable, parce qu'elle est introvertie, parce qu'elle a une force intérieure, elle n'a qu'à exploiter cette force intérieure dont elle est dotée par Dieu qui l'a créée pour pouvoir résister. Et elle va se rendre compte que quand elle résiste, elle sera l'objet de respect de la part de tout le monde, et plus tard, elle sera une femme heureuse.
Voilà, Isidore Mamana, on a parlé à une certaine époque de ce qui se passe dans certaines universités où il y a des jeunes filles qui sortent avec 2, 3, 4 personnes, elle est avec un professeur, vous avez entendu parler du phénomène de points sexuellement transmissibles, un prof qui peut donner des points, il y a un autre collègue étudiant qui aide à faire les TP et autres, et puis voilà, un autre homme marié qui lui donne l'argent pour acheter des habits et autres, donc c'est vraiment la vie facile, on veut avoir l'argent à tout prix.
Ah, merci Daniel. Malheureusement, nous avons cette pratique sur nos campus. Les campus, les universités, qui sont des écoles d'élite. Malheureusement, aujourd'hui, elles se transforment dans des écoles de masse. On y trouve des milliers d'étudiants qui, dans leur vie, pendant leur jeunesse, ils ne se sont pas peut-être fixé un idéal à atteindre, parce qu'on a fini les humanités et qu'on va à l'université, les parents ont poussé un peu, et on arrive sur le campus, on n'a pas eu une formation solide à l'école secondaire, et on trouve que la vie devient un peu difficile, on se laisse abandonner à ce genre de pratiques. Mais il y a aussi, à mon point de vue, à stigmatiser ce comportement des professeurs, et même des éminents professeurs, qui harcèlent les jeunes filles, qui, parce que la fille n'a pas cédé, elle a montré une personnalité forte, parce qu'elle n'a pas cédé, le professeur a utilisé les camarades étudiants de la fille, ça n'a pas été possible, on l'attend au tournant, quand il y a examen, on l'a fait échouer, et puis on attend la deuxième session, on lui dit, bon, si tu veux monter des classes, tu n'as qu'à venir avec moi. Je crois que c'est un comportement suicidaire. On est en train de transmettre à nos enfants des antivaleurs qui circulent à travers la société, parce que nous sommes, excusez-moi les termes, nous sommes maintenant une société perverse. Ce qui était vertu est devenu anormal.
Oui.
Ce qui est anormal est devenu valeur aujourd'hui. On dit, bon, moi j'ai fait ma vie, et on se contente de recevoir de l'argent des gens, ça s'appelle aussi mendicité.
Oui.
C'est ainsi que plus tard, quand on travaille, on ne fournit pas beaucoup d'efforts pour atteindre des résultats, mais bon, on se prend l'argent dans des caisses de l'État, à gauche, à droite, on s'enrichit vite, 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 là, et puis on dit, bon, voilà, moi j'ai réussi ça de ma vie.
Oui.
Ce n'est pas ça, réussir la vie. Je crois que nos filles qui nous écoutent, qui vont au campus, et non qu'à utiliser leur intelligence. Si on peut solliciter un collègue de classe, écoute mon frère, ici je ne comprends pas très bien, est-ce que tu peux être disposé à m'expliquer un peu? Ça c'est loyal, ça c'est normal. Mais lui dire, et que même si les garçons en profitent pour dire, mais écoute, moi je vais t'expliquer les choses comme ça gratuitement, et je crois que si la fille cède, Elle est en train d'échapper sa propre vie.
Oui.
Elle peut avoir son diplôme de licence. Mais qu'est-ce qu'elle sera plus tard si dans sa tête il n'y a pas assez de connaissances et si dans sa personne il n'y a pas de valeurs qu'on peut copier par d'autres personnes. Et nous allons ici vers la ruine.
Vers la ruine, qui est. Voilà, Isidore Mamanaï, Michel Kossa nous appelle de Kikwit. Bonjour, Michel. Michel, bonjour.
Bonjour, j'ai une question à vous poser.
Oui, allez-y.
Bon, j'aimerais savoir si une femme, une maman qui n'a pas eu de bonne personnalité dans sa jeunesse,
oui.
Quelle pensée pouvait-elle prodiguer à ses filles qui pourraient passer la même jeunesse qu'elle?
Isidore Bamanaï.
Merci Michel. La question vont son présent d'or. Je pense que si la maman n'a pas une forte personnalité, comme on dit, la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Mais si elle n'a pas une forte personnalité, mais qu'est-ce qu'elle va transmettre à ses filles? Elle va laisser ses filles se conduire de n'importe quelle manière et la vie va passer comme ça. Est-ce que les filles auront les chances de réussir dans leur vie? Ce n'est pas son problème. Je pense qu'en ce moment-là, si l'homme qui a épousé cette femme constate qu'il y a des insuffisances de l'autre côté, il devra s'employer doublement à pouvoir relever un peu le niveau de la personnalité de sa femme et à être plus près de ses enfants, particulièrement plus près de ses enfants-filles. Hein, nous constatons malheureusement que dans notre société, c'est comme si l'éducation des filles c'est l'affaire des femmes et l'éducation des garçons c'est l'affaire des hommes. Je crois que les parents ne devront pas se comporter de cette manière. Quand un père responsable constate cette insuffisance, il devra s'employer pour pallier. Parce qu'après tout, si nous ne laissons pas sur cette terre des progénitures, des enfants qui sont bien formés, des enfants qui ont des personnalités, c'est le plus grand mal dont souffre notre pays. Nous ne savons pas dire non là où il faut dire non. Nous ne savons pas dire oui là où il faut dire oui. Pour un $20, même pour un 500 francs, nous changeons de point de vue le matin, on dit non, le soir on dit oui. Et je crois que cette mère devra aussi, parce qu'après tout, même si elle n'a pas étudié, Dieu a pourvu à chacun ses propres potentialités, il suffit que son mari l'aide, il suffit qu'elle-même aussi prenne conscience que je ne fais pas correctement mon travail sur mes enfants, et qu'elle qu'elle réoriente autrement sa vie, de telle manière qu'elle apporte un peu plus de chance à sa fille.
Voilà, Placide Kiteto nous appelle de Calémi, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Voilà, nous parlons de comment aider une jeune fille à forger sa personnalité avec Isidore Bamanaï, éducateur à la vie, intervenant depuis Mbujima et au Kasaï oriental. Quelle est votre question, Placide?
Oui, ma question est celle-ci. J'aimerais savoir, est-ce que la responsabilité peut-être de la méconduite de la fille pourra être incombée à la famille ou précisément à notre gouvernement? C'est ça la question.
Isidore Bamanaï.
Oui, merci. Nous avons l'habitude de rejeter la responsabilité de l'échec souvent sur le gouvernement. Je sais que le gouvernement a sa part de responsabilité, mais nous qui avons nos enfants à la maison, nous sommes les premiers à jouer un rôle prépondérant, un rôle déterminant. Bon, mais je pense que le gouvernement devra aussi favoriser cette possibilité aux parents de pouvoir imprimer chez leurs enfants, chez leurs filles, une ligne de conduite. Parce que si, par exemple, un enseignant à l'école secondaire ou un professeur à l'université a transmis les points sexuellement, je crois que le règlement devrait le punir. Si la direction, le comité de gestion de l'université ne punit pas ce professeur, et si le ministre qui apprend ce genre de choses reste aussi dans son bureau et dit « bon, au Congo c'est comme ça, nous ne pouvons rien faire », nous devenons alors nous tous responsables de l'échec et de la méconduite de nos enfants. Donc je souligne qu'en premier lieu ce sont les parents, si la fille apprend à résister, parce que je connais qu'il y a des filles qui résistent. Malheureusement, elles ne sont peut-être pas très nombreuses, mais je reconnais qu'il y a des filles qui résistent aux professeurs, qui résistent à la sollicitation de leurs camarades, qui parfois, bon, pour essayer de les intimider, on les appelle à noirite. Mais ces filles-là existent.
Oui.
Et la fille elle-même aussi doit pouvoir réfléchir. La fille elle-même aussi doit pouvoir se dire, si je me donne, quel sera mon avenir demain? C'est ça la plus grande question. Les parents peuvent beau conseiller la fille, mais quand la fille sort de la famille, elle est sur la rue, elle est seule. Elle doit aussi être en mesure de se dire, on ne doit pas trimballer ma personnalité dans la boue. Je ne peux pas être un objet de plaisir pour n'importe qui. Je ne peux pas croire à tout ce qu'on avance autour de moi comme idée. Je dois avoir mes propres idées et je dois défendre mes propres idées. En ce moment-là, on conjugue les efforts ensemble et il y a moyen de réussir.
Voilà, il y a aussi, on parle de l'influence des amis. Si la fille est entourée de mauvais amis, voilà, elle risque d'être corrompue aussi.
Ah, ça c'est exact. C'est pourquoi il faut dans la vie savoir opérer les choix. Qui est-ce qui peut être mon ami selon mon idéal de vie? Si une fille se dit, moi je dois résister, moi je dois maîtriser mes sentiments, moi je dois pouvoir étudier, réussir par mes propres efforts. Mais si elle entre dans un groupe de filles qui se maquillent, qui montent dans les voitures des enseignants ou des professeurs ou des commerçants et qui l'entraînent, si elle se laisse entraîner, je crois qu'elle va échouer, elle aussi, elle va échouer sa vie. Parce que ceux qui ont de mauvaises habitudes les transmettent très facilement parce qu'elles se disent, il ne doit pas y avoir autour de nous quelqu'un qui se comporte bien parce que son comportement va nous interpeller tout le temps. On voudrait être tranquille en disant, bon, dans notre groupe, c'est tout le monde qui vit de cette manière-là. Ainsi donc, la fille doit se dire, dans ce groupe-là, je n'entre pas. Je ne choisis pas des amis dans ce groupe-là. On peut être camarades, on peut se rencontrer sur la route, on peut se rencontrer dans les quartiers, on peut parler, on peut échanger. Mais avoir des relations d'amitié, un ami, on les choisit en fonction de ce qu'on est, et en fonction de ce qu'il est aussi. De telle manière que quand on est en amitié, on favorise l'idéal qu'on s'est fixé à avancer, à se réaliser petit à petit dans la vie, jusqu'au moment où on arrive à une réussite.
Voilà, Isidore Bamanaï, éducateur à la vie intervenant des Kungujimaï au Kasaï oriental. Nous vous disons merci et bon début de semaine.
Merci Daniel, merci, au revoir aux auditeurs de la radio au Capitole.